Torbalo, la petite sœur. Quatrième partie. Chapitre 1. À Madame de Mussidan. Chère maman, c'est aujourd'hui seulement que je peux compléter la dépêche que je t'ai envoyée hier, aussitôt après mon arrivée. Je n'ai pas eu une minute à moi dans ma journée, et le soir je tombais de fatigue et de sommeil. D'ailleurs, t'écrire en ce moment aurait déplu à ma tante, qui se couche à 9 heures, et qui veut que toutes les lumières soient éteintes dans le château à 9h30. Si j'avais grand sommeil, c'est que je n'ai pas dormi dans ma nuit de voyage. Je suis descendue à presque tous les arrêts du train, au grand déplaisir de Mademoiselle Adélaïde. Mais j'avais plaisir à me promener sur le quai par cette chaude nuit, la plus belle que j'ai vue. Bien que Mademoiselle Adélaïde ait l'air assez aigre, ainsi que tu as pu le remarquer, au fond, c'est, je crois, une bonne personne. Elle s'est prêtée à ma fantaisie, et toutes les fois que j'ai voulu descendre de wagon, elle est descendue avec moi, ne comprenant rien à l'envie que j'avais de me promener ainsi. Tu sais que la station de corde est 20 drachmes, mais notre train express ne s'y arrêtant pas, nous avons dû descendre à la station précédente, qui est Lexos. J'en ai été tellement déroutée que je ne sais pas trop ce qui s'est passé en ce moment. Quand je me retrouve, nous sommes en voiture, dans une vieille calèche qui remonte à l'antiquité la plus vénérable, mais qui est traînée par 2 beaux chevaux rapides. Mademoiselle Adélaïde est assise en face de moi, à reculons, et quand je veux qu'elle prenne place à mes côtés, elle s'y refuse, disant que ce ne serait pas respectueux ni convenable pour entrer à corde. Convenable ! Ah, maman ! Il est 9 heures du matin et le soleil rend aveuglante la route blanche. Il fait chaud comme à 2 heures de l'après-midi à Paris, si chaud que je m'endors. Quand je me réveille, j'aperçois devant moi, à une assez grande distance, au milieu d'une plaine jaune, se découpant sur le ciel bleu, une petite montagne isolée que couronnent les toits d'une ville avec une ceinture de murailles et de tours noires. Il semble que ce soit une grande forteresse, comme on en voit dans les contes de fées. « Ces cordes, me dit Mademoiselle Adélaïde, ces murailles et ces tours ont été construites par Raymond VII, le protecteur de votre ancêtre, Guillaume de Puylaurens. Eh bien, c'est très curieux, très beau de loin, cordes. Je te dirai dans la suite ce que c'est de près, car nous n'y sommes pas entrés immédiatement. » Arrivés au bas du monticule, nous l'avons longé jusqu'à une grille ouvrant sur un beau jardin dans lequel s'élève un château. « C'est le château, me dit Mademoiselle Adélaïde, qui dit tout ce qui est inutile. » Je m'en doutais bien. Seulement, d'après ce que j'avais entendu dire à mon père, je m'imaginais que c'était un vieux, très vieux château, contemporain des murailles de Raymond VII, tandis qu'il n'est pas du tout si vieux que cela. Il ne remonte qu'à Louis XV, d'après Mademoiselle Adélaïde. Mais pour n'être pas vieux, il n'en est pas moins noble et imposant, avec sa façade qui n'en finit pas. En descendant de voiture, je cherchais ma tante, mais je ne l'aperçus pas. Je ne vis qu'un petit vieux bossu, vêtu d'une veste en indienne rose rayée de bleu et d'un pantalon noir tombant sur des souliers à boucles qui ne pouvaient être que M. Buvat, le valet de chambre de ma tante. « Mademoiselle, ce sera enrhumée, me dit Mademoiselle Adélaïde. Elle n'ose pas s'exposer à l'air. Elle est sûrement derrière la fenêtre du petit salon. » Je suivis le regard de Mademoiselle Adélaïde, et derrière une fenêtre à petits carreaux, j'aperçus un visage maigre et pâle, enveloppé de dentelles blanches, qui me souriait. Il faut te dire, maman, que j'étais très émue et que j'avais peur, me demandant ce qu'était cette tante si noble. Ce sourire me donna tout de suite du courage, et ce pauvre visage souffrant de la sympathie. Buvat marchait devant moi. Il m'ouvrit la porte du petit salon et je me trouvai en présence de ma tante. Je fis quelques pas vers elle pour l'embrasser, mais de la main elle m'arrêta. « Ne m'embrasse pas, ma petite, tu gagnerais mon rhume. » Je restai au milieu du salon, assez décontenancé, bien que le ton avec lequel elle m'avait dit cela n'eût rien d'intimidant. Et pendant ce temps, elle m'examinait des pieds à la tête. Tout à coup, elle s'écria « Oh, elle est jolie, la malheureuse !» Tu penses si cela me rassura. Mais pour que tu comprennes cette exclamation, il faut que je te répète ce que Mademoiselle Adélaïde m'a fait connaître du caractère de ma tante en me parlant d'elle-même et de ses malheurs. car elle est très malheureuse, mademoiselle Adélaïde, malheureuse de ne pas s'être mariée. Il paraît qu'elle a trouvé des partis superbes qui avaient tout, l'argent, l'amour, tout, au moins à ce qu'elle dit. Et elle les a refusés pour ne pas déplaire à ma tante, qui veut que tous ses domestiques soient célibataires, parce que pour elle, le mariage est l'enfer des femmes. Alors, me trouvant jolie, elle me plaignait déjà à la pensée qu'on voudrait m'épouser et que je serais malheureuse. « As-tu fait bon voyage ?» me demanda-t-elle tout de suite. Quand j'eus répondu en la remerciant, elle me dit qu'on allait me conduire à mon appartement, d'où elle me priait de redescendre aussitôt que possible, parce qu'elle m'avait attendue pour déjeuner. « Penses-tu que j'ai un appartement à moi ? Une chambre, un cabinet de toilette et une autre pièce que je ne sais pas comment appeler. Un salon, un boudoir, un cabinet de travail. Enfin, il n'y a pas de lit, mais deux petits canapés en bois peints en gris comme les lambris et recouverts de velours vert rayé. Des fauteuils, un bureau en bois de rose sur lequel je t'écris en ce moment même, carré dans mon fauteuil comme si j'avais toujours été habituée à ce luxe. J'obéis à la recommandation de ma tante et ce fut à la hâte que je m'arrangeai dans mon cabinet de toilette, tendu de basin blanc et garni de porcelaine décorée de fleurs roses. Ça m'a l'air très beau, mais je ne sais pas ce que c'est. Ancien, pourtant. Aussitôt que je fus descendue, ma tante me fit mettre à table en face d'elle et on commença à servir le déjeuner dans de la vaisselle en argent et vieille aussi, celle-là, je t'assure. Ce n'est ni Buvin ni Adélaïde qui font le service de la table, ce sont de trop grands personnages pour cela. Cependant, Buvin, en redingote marron et en cravate blanche, assiste au repas à côté d'un dressoir et, du doigt et de l'œil, il dirige le domestique qui change les assiettes, apporte les plats et verse à boire. Quand ma tante a un ordre à donner ou qu'elle désire quelque chose, c'est à Buvin qu'elle parle. J'avais une terrible faim. Mais tout cela était si imposant que j'en oubliais de manger. Et cependant, ne va pas t'imaginer qu'elle n'est qu'imposante, ma tante. Je ne la connais pas encore beaucoup, mais je suis sûre qu'elle est très bonne. Il n'y a qu'à regarder ses yeux noirs, ardents et doux à la fois, il n'y a qu'à entendre sa voix. Je veux te dire tout ce que je fais, de façon que tu me vois. Mais tu ne tiens pas, n'est-ce pas, à ce que je te dise tout ce que je mange ? Sois tranquille, malgré la vaisselle en argent et la belle redingote de Buvin, je ne trouve pas la cuisine de ma tante meilleure que la tienne. Le déjeuner fini, ma tante me proposa de me montrer la maison et je lui répondis que je la remerciais parce qu'elle pourrait gagner froid. Cela, je le dis par politesse, car il faisait une chaleur à suffoquer. J'étais rouge comme les cerises que je venais de manger. « Mais je ne veux pas sortir, répondit ma tante. Tu feras seule ton tour de jardin. Dans la maison, c'est comme ici, les fenêtres sont fermées, il n'y a pas de courant d'air. Je ne peux pas m'exposer au froid, car il faut que je sois en état d'aller demain à la messe. Viendras-tu avec moi ?» Quand ma tante avait dit le bénédicité et les grâces, elle avait bien vu que je n'étais pas au courant. Cela me fit répondre que je serais heureuse de me joindre à elle, ce qui lui fit plaisir. Elle est très grande, la maison de ma tante. Il y a trois salons, un blanc, un vert, un bleu. Il y a une salle de billard, une bibliothèque, où les livres sont dans des armoires grillées et fermées à clé. Il y a aussi, ce que je n'avais jamais vu, un oratoire qui est en communication avec la chambre de ma tante. Il s'y trouve un hôtel très bien orné, avec des fleurs et des chandeliers en argent, un grand tableau représentant le Christ sur la croix, et une statue en marbre blanc de la Vierge. Notre visite se termina par le salon bleu, où, ce qui me frappa tout de suite, ce fut un magnifique clavecin orné de peintures sur fond d'or, représentant des amours qui jouent du violoncelle et d'autres instruments de musique, avec des singes qui les regardent en se balançant à des guirlandes de fleurs. « Ah, un clavecin ! Est-ce qu'on trouve encore à corde des personnes qui jouent du clavecin ? » dis-je bêtement. « Moi, petite peste !» répondit ma tante en riant. « Et puis, il va y avoir toi aussi. Ce sera ta punition. Puisque tu joues si bien du piano, montre-moi un peu comme tu joues du clavecin. » Je ne me fis pas prier et je jouai un menuet de Lully, celui d'Attis. « C'est vrai que tu as beaucoup de talent. On ne jouait pas comme cela de mon temps. » Et comme je lui demandais comment on jouait de son temps, elle me donna une petite tape sur la joue. « Artiste, va, me dit-elle, tu veux me rendre les compliments que je t'ai faits, mais avec moi, cela n'est pas de mise. » Je voulais te raconter ma journée d'aujourd'hui, mais je t'en ai déjà écrit si long que je n'ai plus de temps à moi. Il faut que je m'habille pour dîner avec M. Chabrol, le curé. Demain, je te conterai ma journée d'aujourd'hui et mon entrée dans la fameuse maison de Guillaume de Puylaurens. Pour connaître ma tante, c'est là qu'il faut la voir. À demain. »